Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce vendredi 5 mars, changement de rythme dans la vaccination. De très nombreux centres ouverts ce week-end, que ce soit dans le Pas-de-Calais, mais aussi à l'Île-de-France, doses supplémentaires et personnel en renfort. Une accélération que certains aimeraient voir durer. C'est le cas d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Tandis que les habitants du Pas-de-Calais, justement, vont passer leur premier week-end confiné, d'autres territoires vont devoir trouver d'autres activités que le bricolage, par exemple. Les magasins de plus de 10 000 mètres carrés vont devoir fermer dans les 23 départements sous surveillance. Un nouveau tour de vis qui ne passe pas, vous l'entendrez, avec notre invité Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Fin de mêlée, le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, est allé en personne s'expliquer ce matin au ministère de l'Éducation et des Sports. Oui, beaucoup de joueurs ont été contaminés par la Covid, mais le protocole sanitaire a été respecté. Et puis il est arrivé il y a une demi-heure tout juste en Irak. Le pape François entame une visite historique auprès de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Notre coup de cœur de ce vendredi sera consacré à la French Baguette, qui, Covid ou pas, cartonne à l'étranger. La météo, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
C'était bien gris ce matin Céline, mais cet après-midi ça s'améliore.
Oui, le soleil devrait revenir sur le nord du pays. Ce sera en tout cas beaucoup plus lumineux. On aura encore un ciel couvert pour le centre-est. Le tout sous des températures encore douces pour les régions les plus au sud, hein, puisque on ira jusqu'à 17 degrés à Montpellier. Ça sera beaucoup plus frais pour la moitié nord. La moyenne ira de 6 à 8 petits degrés.
Merci Céline. La question du jour. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? Vous dites oui à 67%. Non à 26%. On attend évidemment vos appels au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Agnès. 30% des soignants sont vaccinés. Ça ne suffit pas, a insisté le ministre de la Santé Olivier Véran hier. C'est vrai qu'on découvre ce sujet. On est étonné, pour tout vous dire, que les soignants rechignent à l'idée de se faire vacciner. Donc vous pourrez nous appeler au 3210. L'autre thème du jour, c'est Reims, Beauvais, Lyon. Y a-t-il plus de violence aujourd'hui en France? On en a beaucoup parlé hier. Est-ce qu'on a abandonné d'une certaine manière les quartiers sensibles? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Y a-t-il trop de laxisme dans le pays? C'est ce que j'ai entendu hier entre 13h et 14h30. En tout cas, ce sont des questions auxquelles vous pourrez répondre. Et puis, il y a du football. C'est les 16e de finale de la Coupe de France. Donc, si l'un de vos clubs y participe, n'hésitez pas à nous appeler également.
Merci beaucoup, Pascal, et à tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Les quatre prochains week-ends confinés dans le Pas-de-Calais, 23 départements sous surveillance renforcée et une vaccination accélérée. Hier, le Premier ministre Jean Castex estimait que 20 millions de Français devraient avoir reçu la première dose d'ici la mi-mai. Alors pour cela, il faut augmenter la cadence et ça commence dès ce week-end, Virginie Garin.
Oui, tout le monde sur le pont. Le gouvernement a demandé aux agences régionales de santé, aux mairies, l'ouverture de centres éphémères dans les 23 départements sous surveillance ou de laisser ouverts ce week-end les centres existants. 135 000 doses supplémentaires vont être acheminées dans ces départements à partir d'aujourd'hui. Alors, il faut des doses et des bras. Donc, un appel aux médecins volontaires a été lancé. Les pharmaciens vont pouvoir venir renforcer les équipes dans les centres pour vacciner. Appel aussi aux pompiers, à la fois pour faire les injections ou pour assurer la logistique. Patrick Ergen est le vice-président des sapeurs-pompiers de France.
C'est toute la communauté des pompiers qui participent, que ce soit directement avec des professionnels de santé, parce que parmi les 250 000 pompiers en France, on trouve plus de 12 000 membres de services de santé et secours médical, c'est-à-dire des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, ou indirectement, d'un point de vue d'organisation logistique. Ils vont accueillir les personnes, ils vont répondre à quelques questions, ils vont gérer des tâches administratives, le recensement des personnes vaccinées.
Et puis, il reste de nombreuses doses pour les soignants inutilisées. Et bien, dans certains hôpitaux, comme à Paris, elles vont être proposées dès ce week-end aux parents des soignants ou aux patients suivis à l'hôpital de plus de 50 ans et avec des facteurs de risque importants.
Merci beaucoup Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Vous parliez des doses nécessaires à l'instant, Virginie, pour accélérer la cadence. À Paris, ça va être 11 000 vaccins supplémentaires disponibles ce week-end. Donc, la maire de la capitale, Anne Hidalgo, visite en ce moment même un centre dans le 19e arrondissement. Ce changement de rythme, selon elle, doit absolument s'inscrire dans la durée.
Nous sommes évidemment en capacité de faire la vaccination ce week-end et nous nous sommes d'ores et déjà mobilisés. Donc oui, c'est une très bonne chose. Je suis heureuse que des vaccins qui étaient stockés pour des raisons que j'ignore, mais sans doute pertinentes, soient débloqués et permettent d'accélérer la vaccination pendant ce week-end. Maintenant, il faut qu'on amplifie ça. Si on veut, et on le veut tous, arriver au moins de mai avec une situation qui serait plus confortable, il faut absolument qu'on accélère la vaccination. Il faut que ça dure.
Anne Hidalgo avec Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Dans le Pas-de-Calais, tous les centres de vaccination seront donc ouverts ce week-end. Le préfet l'a répété ce matin, tout comme il a justifié le choix de confiner le département durant les 4 week-ends prochains. C'est très simple, hein, pas d'autre alternative. Écoutez-le, Louis Lefranc, préfet du Pas-de-Calais.
Moi, je suis convaincu qu'il faut en passer par un reconfinement le week-end qui vient renforcer les mesures qui ont été prises et qui s'appliquent, notamment, je pense, au couvre-feu. Le problème auquel nous devons faire face, c'est l'engorgement des capacités hospitalières. Donc, on a un taux d'incidence qui est parmi les plus élevés de France. On vient juste après les Alpes-Maritimes, à égalité quasiment avec la Seine-Saint-Denis. Dans le département du Pas-de-Calais, c'est très disséminé. C'est aussi bien les zones rurales que les zones urbaines qui sont touchées, c'est notamment les secteurs les plus proches de la zone de Dunkerque. Donc, le but, c'est vraiment de freiner la pandémie et de faire en sorte de casser ces courbes. Si on ne fait rien, on est sûr du résultat. D'ici quelques jours, on va devoir transférer des patients à l'extérieur du Pas-de-Calais. Il y a un coup de collier à donner pour qu'on puisse retrouver une vie normale au mois d'avril.
Préfet du Pas-de-Calais, Louis Lefranc avec Franck Hanson pour RTL. Dans tous les départements sous surveillance renforcée, ils sont 23 en tout, tous les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés vont devoir fermer. Sachant que dans le Pas-de-Calais, là aussi, tour de vie supplémentaire, puisque seules les grandes surfaces de moins de 5000 mètres carrés peuvent rester ouvertes. Concrètement, cela veut dire pour certains pas de course dans les magasins de bricolage demain par exemple. Et cela explique peut-être, Sébastien Rouxel, que certains aient pris les devants ce matin. Vous êtes pour RTL devant le magasin Leroy Merlin de Saint-Denis.
Oui Agnès, et c'est le cas de Laurent notamment, les bras chargés de pots de peinture, de bâches et de rouleaux.
C'est pour repeindre un appartement.
Il avait prévu de faire ses courses mardi avec un ami, mais les annonces hier soir de Jean Castex l'ont contraint à changer ses plans.
Dès ce matin, nous sommes appelés au téléphone et on se donnait rendez-vous directement dans le magasin pour faire ses courses d'urgence, sans quoi eh bien, on n'aurait pas pu remettre en état l'appartement et le relouer. Et donc on a anticipé en venant aujourd'hui, en espérant qu'il n'y ait pas la foule. Et heureusement, c'est assez vide, donc on peut le faire en toute tranquillité.
Michael, lui, vient d'acheter une maison. Il est en plein travaux et ce magasin, c'est très pratique pour lui.
Je suis à 10 minutes de la maison, il est grand, j'ai tout ce qu'il faut. Dans ma situation-là, j'ai vraiment besoin de ce magasin-là. Sur Internet, les images, voilà, ils vont jamais correspondre à ce qui est réel, en gros. Ici, je peux venir mesurer, je pourrais voir la couleur en face, lâcher des 1 000, 1 500 euros et après, c'était pas bon et tout. Franchement, ça me convient pas du tout.
Alors, pour limiter ses pertes, le magasin aimerait poursuivre son activité sous la forme de click and collect. La direction attend désormais l'arrêté préfectoral pour savoir si cela sera possible.
Le reportage de Sébastien Rouxel pour RTL. Avec nous, Johan Petiot. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Alliance du Commerce. Davantage de centres commerciaux fermés. Comprenez-vous ce nouveau tour de vis ?
Non, on a toujours du mal à comprendre pourquoi le commerce est stigmatisé, pourquoi il est toujours victime de ces nouvelles fermetures, alors même qu'on sait maintenant depuis plusieurs études, depuis plusieurs mois, que les commerces ne sont pas des lieux de contamination du virus. Donc bien sûr, la fermeture de nouveaux commerces est toujours une mesure qui est mal comprise et qui est vécue comme injuste par les professionnels qui sont impactés par ces fermetures.
Même les commerces de surface plus que 10 000 mètres carrés, enfin, on le disait, c'est pas tous les commerces non plus.
Bien sûr, aujourd'hui, il y a une partie de nous qui était soulagée hier soir parce qu'en effet, nous avons évité un confinement plus large qui aurait pu s'étendre aux 23 départements sous surveillance. Donc bien sûr, il y a une part de soulagement, mais il ne faut pas oublier dans le même temps que depuis le 31 janvier, ce sont 25 000 grands magasins et commerces dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés qui sont fermés partout en France et que s'ajoute depuis hier la la fermeture de 150 centres commerciaux nouveaux dans ces 23 départements, ce qui doit correspondre à environ 5 à 6 000 commerces. Donc ça fait quand même encore 30 000 commerces qui vont être fermés dans le courant du mois de mars. Et les entreprises sont aujourd'hui dans une situation beaucoup plus fragile, beaucoup plus difficile qu'elles ne l'étaient l'année dernière, parce qu'elles ont déjà vécu 3 mois de fermeture en 2020.
Johan Petiot, ce sont les préfets qui vont décider quels sont les magasins qui peuvent rester ouverts ou pas, hors commerce alimentaire bien sûr. Est-ce que cela veut dire que chaque propriétaire peut avoir une carte à jouer en disant par exemple, voilà, oui, nous on fait plus de 10 000 mètres carrés, mais il y a certains espaces qui sont vraiment consacrés aux bureaux. Est-ce qu'on peut faire jouer les mesures
là-dessus ? En principe, les règles de calcul sont aujourd'hui fixées nationalement par un décret qui a été pris le 29 octobre dernier. Donc les règles semblent être connues de tous. Et le ministre Bruno Maire, avec qui nous avons pu échanger hier sur ce sujet, nous avait indiqué une préférence pour une application nationale de ces règles. Donc, à mon sens, aujourd'hui, les modifications qui pourront être apportées par les préfets vont surtout toucher le seuil, c'est-à-dire soit 5 000, soit 10 000, mais assez peu les règles de calcul et les exceptions pour les commerces dits essentiels qui sont déjà à ce jour prévues dans ce décret du 29 octobre.
Un dernier mot, Johan Petiot, sur le drive et le click and collect, hein, comme on dit. Est-ce que ça va pouvoir perdurer ?
Alors là encore, nous, il y a plusieurs cas de figure. Dans les départements qui sont sous confinement, pour les magasins qui sont fermés le week-end, donc les moins de 5000 m², ces magasins-là auront le droit de maintenir le click and collect et l'activité de livraison. À l'inverse, tous les centres commerciaux de plus de 10 000 m² dans les départements sous surveillance et dans les plus de 20 000 dans les autres départements, eux ne peuvent pas faire de click and collect à l'intérieur de ces centres commerciaux. C'est aussi une décision injuste, incomprise, et nous avons demandé plusieurs fois au gouvernement de permettre à ces commerces de pouvoir faire du click and collect. C'est extrêmement important de maintenir un peu d'activité, et le click and collect le permettrait. Et aujourd'hui, il y a de nombreux clients qui attendent justement leurs colis qui sont en magasin et qui ne peuvent pas venir reprendre. Donc il faut véritablement qu'on autorise aussi le click and collect plus largement dans les grands centres commerciaux et les grands magasins fermés.
Merci beaucoup Johan Petiot d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Alliance du Commerce. Merci. Une pause est dans un instant sur RTL. Les soignants vont-ils être obligés de se faire vacciner ? L'exécutif n'exclut aucune piste.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Il est midi 44 sur RTL. Que ce soit le Premier ministre Jean Castex ou Olivier Véran, le ministre de la Santé, on sent qu'il est très conseillé de se faire vacciner quand on est soignant. Mais concrètement, Vincent Derosier, que peut faire l'exécutif à part cette forte incitation ? Peut-il aller plus loin ?
Oui, c'est possible. Le gouvernement peut parfaitement aller plus loin. Il a d'ailleurs promis de durcir le ton si nécessaire. Mais pour l'instant, l'exécutif joue la carte de l'incitation sans contrainte. Car pour Olivier Véran, les soignants sont des gens raisonnables.
Je crois que le temps de la réticence est derrière nous. Je vais écrire aux médecins, je vais écrire aux infirmières, je vais écrire aux sages-femmes, je vais écrire aux kinés, à tout le monde. Et je vais leur dire que ce combat, ils le mèneront encore mieux s'ils sont eux-mêmes protégés. Mais si ça ne suffisait pas, alors nous pourrions envisager une saisine du Conseil consultatif national d'éthique qui serait fondée à nous dire s'il faut aller au-delà.
Voilà, la menace est brandie. Ce comité dirait si le vaccin contre le Covid peut être ajouté à la liste des vaccins obligatoires. Ça ne serait d'ailleurs pas une première. Les personnels des hôpitaux ou des EHPAD doivent déjà aujourd'hui être immunisés contre la diphtérie, le tétanos ou l'hépatite B. Et pour y parvenir, pas besoin d'en passer par la loi. Un simple décret suffirait. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée et un gain de temps donc considérable. Reste le risque politique pour Emmanuel Macron si le président décidait de tordre le bras aux soignants après avoir répété que tout serait basé sur la confiance et le volontariat.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Visiblement, l'affaire est close. Le ministre de l'Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer, est satisfait des explications données par la Fédération française de rugby. Pourquoi y a-t-il eu autant de cas contacts chez les Bleus, de cas de contamination même, hein. C'est le président Bernard Laporte qui est allé s'expliquer en personne rue Grenelle ce matin, Jean-Michel Rascol. Alors, Ambiance, on s'embrasse, on oublie tout.
Eh bien, c'est un excellent résumé, Agnès. Le ministère a validé le rapport de la fédération qui désigne un joueur de l'équipe de France de rugby à 7 comme le patient à l'origine des 17 contaminations. Bernard Laporte, le très persuasif président de la FFR.
Pour moi, personne n'enfreint le protocole, et ni Fabien Galthié. Mais c'est vrai que même s'il respecte le protocole, c'est-à-dire le masque, la distanciation sociale, etc., etc., en termes d'image, c'est pas bon, il faut dire les choses comme elles sont. Pour manger la gaufre avec le masque, c'est compliqué. Mais à partir du moment où ils sortent avec le masque, encore une fois, pour moi, il n'y avait pas de faute. Mais à partir de maintenant, c'est interdit, c'est ce qu'on dit. Voilà, le protocole, il va aller plus loin, c'est interdit de sortir de l'hôtel. C'est aussi simple que ça.
Le protocole de 96 pages va donc être renforcé sous l'impulsion du ministre des Sports, Jean-Michel Blanquer.
La fédération s'est dotée déjà de médecins de très haut niveau pour cela. Maintenant, on a Raphaël Ibanez qui va s'y consacrer, plus un cadre d'État désigné par le directeur technique national. Si j'ose dire, c'est ceinture et bretelle. On essaye de vraiment sécuriser au maximum la suite. On était très fiers des premiers matchs de l'équipe de France dans ce tournoi à destination. Ça partait très bien. On a envie que ça continue. Et c'est pour ça qu'on est en train de créer les conditions de ce nouveau départ dont on pense qu'il va être positif.
Positif n'est peut-être pas le mot le plus judicieux. Une batterie de tests attend les joueurs à Marcoussis dimanche avant-propos à Angleterre-France le 13 mars.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol pour RTL. À Lyon, une enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices, pour éclaircir les circonstances d'un grave accident de scooter mercredi. S'en sont suivis des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Ces dernières sont accusées en fait par certains habitants du quartier de la Duchère d'être impliquées dans l'accident. Certains habitants et la famille aussi, hein, Frédéric Perruche.
Oui, la sœur de Mohamed, qui habite juste en face du virage où l'accident de scooter s'est produit, assure que c'est une patrouille de police qui est responsable de la chute et des graves blessures de son petit frère.
Nous, on pensait que c'était juste un accident et ensuite, c'est des personnes qu'on ne connaît pas du tout qui veulent témoigner, qui ont dit que c'était pas un accident en fait. Là, il a tapé contre le poteau, c'était un choc violent qu'il a eu à la tête, donc non. Moi, je pense pas qu'il s'est fait ça tout seul, c'est pas possible.
Une version à laquelle ne croit pas cet habitant.
Le PP là, de l'immeuble, il a vu ce jeune qui allait et qui venait. Mais à aucun moment, il y avait des courses-poursuites avec la police. Hein. Moi, j'ai déjà vu souvent des jeunes qui s'amusent en moto. J'ai jamais vu des policiers leur courir après. Donc, ils ne le font pas. Les gens appellent. Hein, ils disent, oui, on en a marre dans le quartier. Des fois, il y a des motos qui font des roues arrière, qui font du bruit. Bon, hein. Puis après, on va voir un véhicule de police passer peut-être une heure ou deux heures après, mais alors que ça serait devenu calme.
L'enquête s'annonce compliquée. La police ne pourra compter que sur des témoignages. Il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance à proximité du lieu de l'accident.
Le reportage de Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Un troisième suspect interpellé suite à la violente agression de deux policiers à Herblay dans le Val-d'Oise en octobre dernier. Souvenez-vous, deux fonctionnaires de police judiciaire de Cergy effectuaient une mission de surveillance quand ils avaient été attaqués par trois hommes roués de coups, blessés par balles. Un premier individu s'était rendu à la police au lendemain des faits. Un deuxième homme avait été, lui, arrêté début décembre. Tous deux sont mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'homme qui vient d'être interpellé ce matin débute tout juste sa garde à vue. Une pause et dans un instant, une visite qui fera date. Le pape François vient tout juste d'arriver en Irak pour 4 jours.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Il est midi 52 sur RTL. Les premiers pas d'un pape en Irak. François vient tout juste d'atterrir à Bagdad. Le souverain pontife part à la rencontre des chrétiens d'Irak en tant que pèlerin. C'est lui-même qui a utilisé ce terme avant son départ. Émilie Bojard, vous êtes notre envoyée spéciale au Kurdistan. Il y a une très grande impatience de la communauté à rencontrer le pape François.
Oui, c'est une arrivée très attendue dans le pays et il a aussi un programme très chargé. 3 jours sur place, 6 villes visitées et cela commence en ce moment avec une visite au président irakien. Il y aura aussi des rencontres très importantes avec les dignitaires religieux d'Irak et c'est surtout pour la sœur Nariman de l'église chaldéenne Oum al-Maouna à Erbil, c'est surtout une main tendue aux chrétiens du pays.
Sa visite va tous nous réunir, pas seulement les chrétiens, c'est pour ça qu'elle est très importante. J'espère qu'il va porter notre voix et nos soucis au monde, c'est aussi une façon pour nous d'être écoutés, soutenus.
Le souverain pontife vient aussi promouvoir le dialogue interreligieux, c'est le sens de sa rencontre demain avec l'ayatollah al-Sistani, la plus haute autorité religieuse du pays. Omar, un musulman de Mossoul, ne cache pas son impatience.
La visite du pape veut dire beaucoup pour nous les Irakiens, d'autant plus en ces temps troublés avec la pandémie de coronavirus et la ville ici qui porte toujours les stigmates de la guerre. Le pape arrive avec un message de paix et tout le monde attend cela avec impatience. Moi-même, j'espère avoir la chance de l'apercevoir.
Alors, aucun bain de foule n'est prévu pour le pape en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais ce soir, premier temps fort avec un déplacement à la cathédrale de Bagdad, touchée par un attentat en 2010 qui avait fait 48 morts parmi les fidèles.
Le reportage d'Émilie Beaujard, envoyée spéciale en Irak pour RTL avec Jonathan Griveaux. Nous ferons vivre évidemment toute cette visite historique durant les 4 prochains jours. En sport, à noter ce soir une interview de Marquinhos. Le capitaine du PSG sera l'invité de RTL Foot à partir de 20h tout à l'heure avant un déplacement piège à Brest, demain, on le rappelle, en Coupe de France. Puis le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Barça, ce sera mercredi.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Le pain perdu, c'est pas pour la French baguette. Vous connaissez peut-être ce kit d'ingrédients pour faire à la maison sa propre baguette. Lancée en 2018 à Trouville, elle connaissait un très très gros succès. Les touristes ont raffolé, elle était même vendue au Louvre. Mais voilà, la crise sanitaire a bien failli avoir la peau de la start-up normande. Sauf que la gérante a eu l'idée d'exporter son concept. Puisque les visiteurs étrangers ne peuvent venir, elle va jusqu'à eux et ça cartonne, Frédéric Veil.
Oui, comme le confirme Eva Brousseau, qui en 2018 a lancé la French Baguette, la pandémie a bien failli mettre fin à cette belle aventure.
Alors effectivement, ça a super bien démarré et le Covid est arrivé. Donc moi, en 48 heures, j'ai eu 100% de mes points de vente fermés.
Il a donc fallu rebondir car pour cette Normande, il était hors de question de jeter l'éponge.
Du coup, j'ai commencé l'export sur les États-Unis. Je suis partie que sur du e-commerce qui achète en quantité et eux se chargent de communiquer et revendre la French baguette aux États-Unis. Alors, ça fonctionne vraiment bien là-bas parce qu'on retrouve vraiment le goût de la baguette française. Et ça, ils en sont franchement amoureux. Et comme ils ne peuvent pas venir jusqu'à nous, bah, au moins, on envoie un petit goût de France là-bas, quoi.
Ce sont donc des palettes entières qui traversent l'Atlantique, des palettes de kit avec à l'intérieur une formule magique.
Alors la baguette, une fois qu'elle arrive aux États-Unis, c'est ça, on rajoute de l'eau, du sel, on met ça dans son four et on retrouve une belle baguette.
Une belle baguette qui croustille et dont le chiffre d'affaires a bondi de plus de 30% en moins d'un an.
Un reportage de Frédéric Veil pour RTL. Baguettes, gâteaux, fleurs ou encore bonbons. Sachez que la famille RTL s'agrandit encore. Bienvenue à Emmanuel, un très beau bébé né hier soir. 4,4 kg s'il vous plaît. Champagne aussi, en oubliez. Vous connaissez bien la maman Céline Landreau. Félicitations à elle et à son compagnon Nicolas. On vous souhaite plein de bonheur à tous les trois. On vous embrasse. On retrouve Pascal Pro, avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Vous avez écouté attentivement le journal, Pascal. Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Plein de sujets, bien sûr, mais c'est vrai que cette affaire de vaccination obligatoire est étonnante pour les soignants parce qu'on n'imaginait pas, en fait, qu'il faudrait obliger les soignants à se faire vacciner. On n'imaginait pas qu'ils rechignent. Et il semble qu'il y ait des réticences. Alors, faut les écouter, bien sûr, les soignants. Mais la première cause de maladie nosocomiale, c'est aujourd'hui l'hôpital. Vous entrez à l'hôpital, vous pouvez vous faire contaminer par un soignant. C'est quand même un paradoxe. Donc, il y a une forme de bon sens à dire aux soignants, vaccinez-vous. Mais il n'y en a que 30% pour le moment. Donc on va les écouter tout à l'heure et ça sera intéressant. L'autre thème du jour, c'est Reims-Beauvais-Lyon. Est-ce qu'il y a de plus en plus de violence dans la société ? J'ai écouté le sujet de notre ami Perruche à Lyon. C'est quand même très très étonnant. Effectivement, on n'a pas le sentiment que les policiers soient derrière ce jeune homme. Et puis on pourra parler sport avec le rugby, si ça vous fait réagir, ou même le football, puisqu'il y a un 16e de finale de Coupe de France. Donc si vous avez un petit club, appelez-nous.
A tout à l'heure Pascal. La météo, que le soleil revienne cet après-midi, c'est une chose. Céline Dacosta, en revanche, parlez-nous des températures, on peut se le dire, il fait froid.
Oui, on peut le dire, c'est le retour de l'hiver, Agnès. En tout cas, sur la moitié nord ou par endroit, on a perdu jusqu'à 10 degrés en l'espace de 48 heures. Résultat, 6 degrés à Lille cet après-midi, 7 à Paris, à Strasbourg, 8 à Reims et Tours, jusqu'à 10 quand même à Nantes. C'est plus doux pour la moitié sud avec une moyenne de 12 à 16 degrés, jusqu'à 17 pour Montpellier et Marseille. Côté ciel, alors encore des nuages, surtout sur le nord-est et entre l'Auvergne et la Franche-Comté. Mais vous l'avez dit, les éclaircies devraient revenir sur toute la moitié nord avec un vent bien frais, un vent de nord-est. Et vous savez comment on l'appelle, Agnès, ce vent de nord-est ?
La bise.
Le Paris-Moscou, il porte bien son nom, avouez-le, pour les régions.
J'ai essayé.
Pour les régions. Bah oui, mais c'est aussi une bise, hein, puisque c'est frais. Pour les régions les plus au sud, le soleil sera bien souvent présent, mais sous un voile nuageux.
Merci beaucoup Céline, excusez-moi, vous m'avez complètement déconcentrée.
Non, je suis désolée.
Dans un instant, il sera 13h sur RTL.
RTL.
Oui ou non ? Bonjour.
Oui. Bonjour Pascal. Oui, clairement.
Eh bien, c'est un oui qui appelle d'autres explications après le rappel des titres d'Agnès.
Le pape François vient d'arriver en Irak, c'était il y a un peu plus d'une heure maintenant. 4 jours de visite historique dans ce pays, martyrisé par la guerre, le terrorisme et bien sûr la crise sanitaire actuelle. Un pays qui compte l'une des plus anciennes communautés catholiques au monde. Les 4 prochains week-ends confinés dans le Pas-de-Calais, 23 départements sous surveillance renforcée et une vaccination accélérée. Hier, le Premier ministre Jean Castex estimait que 20 millions de Français devraient avoir reçu la première dose d'ici la mi-mai. La cadence s'accélère donc et dès ce week-end. Visiblement, l'affaire est close. Le ministre de l'Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer, est satisfait des explications données par la Fédération française de rugby. Pourquoi y a-t-il eu autant de contaminations chez les Bleus ? C'est le président Bernard Laporte qui est allé s'expliquer en personne ce matin. Et puis sachez qu'un 3e suspect a été interpellé suite à la violente agression de 2 policiers à Herblay dans le Val d'Oise. C'était en octobre dernier. 2 fonctionnaires de Cergy effectuaient une mission de surveillance lorsqu'ils avaient été attaqués par 3 hommes roués de coups et blessés par balles.
Merci beaucoup Agnès.